celui-ci, de l'enlèvement de l'Élie, de la montée d'Élie. Et dans ce récit, Élisée est le modèle du disciple. Élie monte au ciel et Élisée, son disciple, voit, assiste à la montée de son maître. Il reçoit par le touchement de son maître l'esprit. Il appelle cet esprit l'esprit d'Élie. Non pas que l'esprit appartient à Élie, mais l'esprit qui animait l'enseignement et les actes d'Élie. Ce qui constitue le parallélisme entre ce récit du livre de Rois et celui que nous venons de lire dans les Actes des Apôtres, c'est que Jésus, lui aussi, est monté, est enlevé à la vue de ses disciples. Jésus devient le nouvel Élie. C'est lui qui accomplit la prophétie d'Élie. Ses disciples, eux aussi, assistent à sa montée. Mais tout de suite, je vais indiquer une différence notable entre le deux récits. La différence, c'est que Jésus qui est monté, d'après la lettre de Paul aux Éphésiens, est celui qui est d'abord descendu. Ce qui n'est pas le cas pour Élie. Élie n'était pas descendu jusqu'aux hommes. Et puis, derrière l'expression « il est descendu », il ne faut pas seulement voir le fait qu'il est venu aussi du ciel sur la terre, ou la terre, où il a séjourné parmi nous, mais il faut également voir sa descente dans la mort. Il est descendu, il est mort. Mais il n'est pas resté prisonnier de la mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Et lui n'est pas ressuscité d'entre les morts. C'est une différence notable. Et le récit qui fera l'objet de notre méditation intervient justement après la résurrection de Jésus. Jésus ressuscité, d'après ce que nous venons de lire dans les Actes des Apôtres, apparaît à ses disciples. Il reste encore avec ses disciples pendant 40 jours. Ce chiffre biblique, ce chiffre symbolique, qui signifie un temps suffisant. Suffisant pour l'épreuve, suffisant également pour l'enseignement. Parce que c'est pendant 40 jours que Moïse est resté au mont Sinaï, recevant les instructions de la loi. C'est pendant 40 ans que les enfants d'Israël ont traversé le désert, où ils ont marché avec le Seigneur, traversant des épreuves, mais également soutenus et aidés par le Seigneur. C'est pendant 40 jours que Jésus lui-même, au début de son ministère, se trouve face à l'épreuve du diable. Et sera victorieux de cette épreuve. Et puis, c'est pendant 40 jours, après sa résurrection, qu'il enseigne encore ses disciples. Il est question donc principalement des disciples. Et notre paroisse, la paroisse de Goma Ouest, a formulé donc le thème pour notre méditation des Actes des Apôtres de la manière suivante. La paroisse de Goma Ouest dit « Les retombées de l'ascension du Christ, notre vie de disciple ou notre disciple. » Nous allons parler donc de notre vie de disciple enseigné par ce récit de Jésus qui est monté au ciel, lui qui est d'abord descendu et qui est ressuscité après. Je voudrais quand même souligner un fait du récit que nous avons lu dans l'Ancien Testament. Je disais tout à l'heure que Élisée donne là quand même un modèle de disciple. Vous le voyez, pendant que le maître le met à l'épreuve, lui dit de rester, il suit sans arrêter, sans abandonner Élie. Élie lui dit, je vais à Bethel, tu peux rester. Élisée dit, non, je viens, je serai avec toi. Arrivé à Bethel, il dit, je vais à Jéricho, tu peux rester quand même. Bon, c'est moi qui ajoute quand même. Élisée dit, je serai avec toi. Il s'attache à son maître. Arrivé à Jéricho, il dit, je vais au Jourdain. Cette fois-ci, ce n'est pas dans une ville, c'est à la campagne, c'est dans la brousse, là où il y a le fleuve Jourdain. Bon, le fleuve Jourdain, ils disent le fleuve Jourdain, et moi, pour l'avoir vu, c'est une grosse rivière comme Dalia chez lui. Bon, bah, il dit, reste ici à Jéricho, je vais au bord du Jourdain. Et Élisée dit, j'irai avec toi. Arrivé là, c'est là que Élie dit, peut-être s'il utilisait le langage que nous avons aujourd'hui, il dirait, ce petit ne va pas menacer. Alors il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne? Hein? Les mamans, quand il y a un enfant qui ne veut pas te lâcher, tu dis, je vais au marché, reste à la maison. Pour que l'enfant reste, on peut dire, mais je vais te donner un bonbon, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux que je te donne, Élisée? Lâche-moi. C'est un peu ça. Bon, alors il demande l'essentiel. Ton esprit, deux fois. J'ai déjà dit que, pour moi, ma compréhension du texte, c'est l'Esprit Saint, n'est-ce pas, qu'il appelle l'Esprit d'Élisée. Parce que c'est l'Esprit Saint qui est en train de le mouvoir, lui, Élie, comme prophète. Les prophètes étaient au moins pour qu'ils soient guidés par l'Esprit d'Élie. Donne-moi le double de ton esprit. Alors, il lui dit, si tu assistes à mon enlèvement, à ma montée, alors tu auras. Sinon, je ne suis pas capable, moi, de te donner cela. Ça ne vient donc pas d'Élie, mais ça vient de quelqu'un d'autre. Ce qui est semblable à ce que nous venons de lire dans les Actes des Apôtres, ce que Jésus ne dit pas, je vous donne l'Esprit, mais il dit, Dieu vous donnera l'Esprit. En tout cas, pour moi, Élisée est là un modèle de disciple. Nous pouvons déjà apprendre beaucoup d'Élisée. Alors, venons-en maintenant à ce qui nous concerne le plus près. Jésus ressuscité, lui qui est descendu du ciel et qui est descendu plus bas dans la mort, n'est-ce pas? Et que Dieu, par son esprit, a ressuscité d'entre les morts, s'est fait voir à ses disciples et enseigne ses disciples pendant un temps encore suffisant. J'ai dit encore parce qu'il était déjà resté quelques années avec eux. Mais après sa résurrection, il estime qu'il doit encore former ses disciples. S'est fait voir à eux et enseigne encore pendant 40 jours. Dans son enseignement, dit le texte, il est question du royaume des dieux. Il leur parle comme il le faisait encore du royaume des dieux. Et à la fin, il leur promet le don de l'Esprit. Ces deux thèmes-là, le royaume des dieux et le don de l'Esprit, suscitent une question chez les disciples. Pourquoi le royaume des dieux, ce règne où Dieu est là, était attendu en Israël, n'est-ce pas? Comme un moment où Israël sera élevé, deviendra une nation puissante, plus puissante que toutes les nations du monde, et tout le monde viendra adorer Dieu en Israël. C'est pour cela que Jésus, qui a parlé des royaumes, ses disciples lui disent, est-ce que c'est maintenant le moment où tu vas établir le royaume pour Israël? Ils étaient tous israélites, et donc ils estiment que ça va être le moment Le moment attendu dans le messianisme traditionnel, ça va être le moment où Israël sera maintenant une nation puissante. Et puis, de sur quoi Jésus a dit qu'ils auront l'Esprit Saint. Oui, l'Esprit Saint était attendu justement pour la fin des temps, pour le moment où Israël sera dirigé par le Messie comme nation puissante. Donc, parler d'Esprit Saint, c'est autant annoncer donc le moment de la venue du royaume de Dieu. Puisque les rabbins enseignaient que, à cause du péché d'Israël, Dieu n'avait plus envoyé son esprit et qu'il renverrait son esprit à la fin des temps. Alors, quand Jésus dit, je demanderai à mon Père, je paraphrase, je demanderai à mon Père de vous envoyer l'esprit, c'est comme s'il leur avait dit que bientôt, la fin des temps, la période messianique va arriver. Alors, c'est pourquoi les disciples eux aussi posent la question, c'est maintenant donc le moment où le règne d'Israël sur les nations va s'établir. Ça va être le bonheur pour nous. Vous pouvez peut-être voir dans notre vie aujourd'hui une attitude assez semblable. Où nous voyons le bonheur pour nous, pour notre communauté, pour notre famille, pour notre nation. Ça devient, oui, le règne de Dieu, mais qui est particularisé pour soi. Alors Jésus corrige, mais il a corrigé avec toute la sagesse divine qui est la sienne. Alors, question de savoir, est-ce le moment, il corrige déjà en disant, ce n'est pas à vous de calculer. C'est ailleurs, dans l'évangile de Marc, Jésus dit, moi-même je ne sais pas. Bon, il ne le fait pas dans le récit que nous venons de lire ici, mais il dit, ce n'est pas à vous de calculer à quel moment exactement cela va arriver. Parce que c'est l'apanage de Dieu seul. C'est Dieu seul qui sait quand il va établir son règne. En fait, il corrige chez eux, il corrige chez nous, cette spéculation sur la chronologie qui doit précéder la fin des temps. Parfois, nous y avons été conduits. Il y a une Bible qui a été prisée chez nous, la Bible Scofield, qui essaye de montrer les dispensations qui doivent précéder la fin des temps. C'est comme un compus apocalyptique où les hommes essayent de coder à peu près à quelle manière la fin des temps va arriver. Je crois qu'il y a une première correction qui nous est adressée. Il ne nous est pas donné à nous de calculer le moment exact où se réalisera la fin de la fin, de manière générale. Peut-être que pour la vie de chacun également, parce que notre eschatologie générale est aussi reflétée dans la vie de chacun, il ne vous revient pas à vous de savoir exactement à quel moment ça sera la fin pour vous. C'est l'apanage de Dieu seul. Vous vivez les temps actuels pendant le service, pour le service. Mais à savoir quand ça sera la fin pour vous, c'est aussi l'apanage de Dieu seul. Alors, une deuxième correction dans la réponse de Jésus est encore plus importante. Et c'est, nous considérons ça comme retombée de l'enseignement sur l'ascension de Jésus. À la question, est-ce le moment où toi, Jésus, tu vas établir le règne? Jésus répond intelligemment avec la sagesse divine qui est la sienne en disant, vous serez mes témoins. Autrement dit, il ne m'arrivait pas à moi seul d'établir le règne de Dieu ici et maintenant. Mais votre participation est requise. Donc, Il aurait pu répondre en disant, ce n'est pas le moment où je veux rétablir le règne. Mais il dit, oui, ce n'est pas le moment. Et puis, vous serez mes témoins. À vous, mes disciples, vous serez mes témoins. Je crois que ça, c'est la plus grande leçon que nous allons retenir pour nous aujourd'hui. Être témoin du Christ. Sa montée au ciel nous installe dans une mission qui est appelée ici la mission des témoins. En fait, que signifie être témoin? C'est un terme technique dans la Bible qui a, je pourrais dire, c'est un concept qui a une signification spécifique. La première, c'est que les témoins témoignent de la vérité. Dans l'Ancien Testament, on dit pour que un jugement soit valide, soit considéré comme conforme à la vérité, il faut qu'il soit rendu par deux ou trois témoins. Donc, nous sommes témoins de la vérité. Nous sommes appelés à défendre, à annoncer la vérité. Nous sommes installés comme des personnes, hommes et femmes, qui doivent défendre la vérité. La vérité dans notre enseignement, la vérité dans notre manière de vivre, vraie, honnête. Ça, c'est le premier aspect, la vérité du témoin. Le deuxième aspect, c'est que le mot témoin, dans le Nouveau Testament, n'est pas sans allusion à la souffrance. L'Apocalypse des Jean appelle Jésus le témoin fidèle. Et quand cet Apocalypse parle de Jésus comme témoin fidèle, par cette expression-là, elle fait allusion à sa souffrance sur la croix. Par sa croix, il a témoigné de l'amour de Dieu. Et donc, être dit témoin, cela nous réfère à ce que nous aurons à subir, à connaître au cours de notre vie. Nous aurons à braver aussi la souffrance. Paul, qui était persécuteur de l'Église, le jour où il a rencontré le Seigneur a dit, tu seras maintenant mon témoin, mon disciple, toi qui persécutais l'Église. Cela faisait allusion aussi à la souffrance qu'il devait endurer. Donc, nous sommes avertis que pour notre ministère de témoin, cela ne va pas sans souffrance. Et donc, il faut être à mesure d'endurer. Troisième aspect, derrière ce concept de témoin, il y a bien sûr la proclamation de la parole. Le témoin parle. Le témoin doit dire, doit parler. Et donc, en tant que chrétien, nous sommes appelés à dire ce que nous savons du salut de Dieu, à dire ce que nous savons de Jésus-Christ et de sa résurrection pour notre salut. Nous devons témoigner. Je crois que nous sommes corrigés sans cesse en tant que disciples. Parfois, nous écoutons et nous gardons le silence. Nous connaissons bien des choses de l'histoire du salut, de l'agir de Dieu dans la vie des hommes. Mais nous ne disons pas, nous ne partageons pas cette parole avec les autres. Il y a un passage dans l'évangile de Marc au chapitre 4 où Jésus dit à ses disciples, en disant, il dit ceci, faites attention à ce que vous attendez. Non pas que vous devez examiner ce que vous attendez, mais vous devez le partager. Parce qu'il ajoute, c'est de la mesure dont vous donnez que vous serez également servi. Nous devons partager la parole. La parole, nous la gagnons en la perdant, en la partageant avec les autres. C'est ça être témoin. Et puis, quatrième signification, le témoin agit aussi. Le témoin agit, il témoigne par les actes. Et ça doit être plus abondant que les paroles. Comme disciples du Christ, nous sommes appelés à témoigner par des actions. Jésus lui-même, il a enseigné, mais il a surtout agi au cours de son ministère. Il agissait pour expliquer ce qu'il a dit. Et nous aussi, nous devons accompagner notre conviction que nous partageons avec les gens par des actes. Les disciples qui ont assisté à son enlèvement ont ensuite agi. C'est pourquoi le récit qui parle de ce qu'ils ont fait s'appelle Actes des Apôtres. Ils ont agi. Donc, nous sommes appelés à être disciples du Seigneur en tant que témoins. Ça, c'est donc la correction principale que Jésus donne en répondant à leurs questions. Mais il ajoute un élément que nous avons déjà eu à épingler dans le récit d'Élie et Élisée, c'est qu'il dit, oui, mais attendez à Jérusalem, il faudra que vous ayez reçu l'Esprit Saint pour commencer. Autrement dit, oui, vous aurez à témoigner, vous aurez à agir, mais ça ne sera pas par votre propre force, vous aurez besoin de l'Esprit de Dieu. Au fond, nous avons toujours assisté à la consécration des ministres dans notre Église. Chaque fois qu'on leur pose la question, la commission des ministères leur dit déjà à l'avance la réponse qu'ils donneront. La commission des ministères dit, tu ne diras pas seulement oui, mais tu diras oui par l'aide du Seigneur. Donc, nous allons agir, nous allons témoigner, mais il faut que cela, pour être efficace, il faut que cela vienne de la grâce de l'Esprit Saint. Alors, une déduction que je peux faire pour la vie de chaque jour, pour chacun et chacune de nous, c'est que le matin dans votre prière, avant d'aller témoigner par vos paroles, avant d'aller témoigner par votre attitude, avant d'aller témoigner par vos actes, demandez l'aide du Saint-Esprit. Demandez que l'Esprit Saint vous accompagne partout où vous aurez à parler, où vous aurez à être devant les gens, où vous aurez à agir. Vous aurez l'Esprit de Dieu. Troisième correction capitale qui est donnée aux disciples, à nous aussi aujourd'hui, c'est que les disciples qui attendaient le rétablissement du règne pour Israël, à eux, il est dit, oui, vous serez mes témoins à partir de Jérusalem, vous allez franchir les frontières de la ville de Jérusalem pour aller dans toute la Judée, la province, et puis au-delà de la Judée, vous irez déjà dans une autre province, la Samarie, qui était considérée comme un peu païenne. Et puis, au-delà de la Samarie, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Autrement dit, notre témoignage ne se limite pas à notre Jérusalem. Notre témoignage ne se limite pas à notre province, à notre pays. Notre témoignage nous envoie ou nous invite à aller au-delà. Beaucoup de nos failles seront résolues si nous le comprenons. Nous aurons à témoigner par nos actes pour les autres, pour les étrangers aussi. Alors, après avoir reçu ces corrections, Jésus monte au ciel à leur vue. Un peu comme Élisée avait eu la grâce d'assister à la montée de son maître Élie, les disciples, eux aussi, assistent à la montée du Seigneur. Et une nuée de gloire, une nuée qui signifie la présence de Dieu, une nuée qui signifie l'aide de Dieu lui-même, vient prendre en charge le Seigneur et reste. À eux qui restent, on leur dit, oui, Vous n'allez pas seulement regarder le ciel, mais vous devez maintenant y aller. Nous sommes invités, frères et sœurs, à notre mission des disciples témoins du Christ. Je voulais, pour nous, ce matin, insister sur le thème témoins du Christ avec ces quatre significations que j'ai eues à indiquer. Témoins pour la vérité, disons la vérité, défendons la vérité. Le monde dans lequel nous sommes est corrompu, n'est-ce pas, par le mensonge, disons la vérité. Nous sommes témoins du Christ, témoins de la résurrection qui donne une nouvelle vie là où il y a eu la mort. Ça, c'est important. Témoins du Christ, cela ne va pas sans la souffrance. Nous n'avons pas à nous lamenter tout le temps, nous sommes déjà avertis. Nous sommes avertis que pour le servir, il faudra aussi braver la souffrance. Troisième élément, témoin du Christ, Christ ne veut pas agir à notre place. Nous sommes appelés à agir, à prêcher comme lui. Ce n'est plus à lui d'établir le règne de Dieu, c'est aussi à nous de participer à l'établissement du règne de Dieu. Par nos paroles, il faut dire, si vous trouvez quelqu'un qui est en train de dire du mal peut-être de quelqu'un d'autre, et que vous connaissez la vérité, ne vous taisez pas, il faut le dire. Si vous trouvez quelqu'un qui sabote la foi chrétienne, et que vous êtes là, lancez votre parole. Si les méchants, vous pouvez fuir après, mais vous aurez témoigné. Je termine en disant que le témoignage n'est pas seulement parler, mais il est aussi action. Nous sommes appelés à agir comme témoins du Christ. Comme disciples du Christ, nous sommes appelés à agir. Ceux qui nous ont précédés, leurs actions sont relatées dans les actes des apôtres. Nous aussi, nous avons à poser des actes. Et que le Seigneur nous bénisse sur ce chemin-là. Amen.